Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur ses deux ailes. Merci d'être avec nous et merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Continuez à vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube. Likez, commentez, partagez nos vidéos. Merci. Et au sommaire de ce numéro du samedi 12 juin, nous irons faire un tour du côté de la baignade, de la plage de Chalette. C'est aujourd'hui que ça démarre. Tous les renseignements utiles dans quelques instants. Nous irons faire une balade du côté d'Adon. C'est au milieu des champs, quelque part, après Nogent. Et c'est là que Agnès et Jean-Michel ont aménagé une grange, la grange de Mussy, où ils exposent chaque année. C'est une petite courte période, ça se termine demain. Faut se dépêcher d'y aller. On en parle tout à l'heure au micro de Sandrine Manteau. Et pour finir cette émission, nous parlerons laïcité et libre arbitre avec Monica qui vient de créer à Chalette l'antenne de la Fédération de la Libre Pensée, une des plus vieilles associations françaises. Elle va nous raconter une histoire assez passionnante, vous verrez. Un peu de musique pour se mettre en train et puis on se retrouve tout de suite sur la plage de Chalette avec Patrice Avzar.
Evlatlarını aramış son gün Seslenmiş her yere Çaresiz kalmış o gün Bir baba sevgi vermemiş Gizlemiş ise Aşkı saklamışsa Evlatlarından bile Nasıl da bekler sarılsın çocuklar ona Bir baba öpmeyi öğretmedikten sonra
Affedin, affedin onu Bir baba olmadıysa bile sizlerle Yalnızlık, yalnızlık ona Çok geç öğretti bu gerçeği
Bir baba sevgi vermemiş, gizlemiş ise Aşkı saklamışsa evlatlarından bile Nasıl da bekler sarılsın çocuklar ona Bir baba övmeyi öğretmedikten sonra
Radio 89.3
à la baignade pour la suite du mag entre Loire et Loin sur C2L Radio à la baignade en pleine préparation comme on peut le voir ils sont en train d'installer les cabines pour se changer avec plein d'aménagements des nouveautés pour cette année sur cette baignade et justement nous allons en parler avec Michel Desnaux il est responsable de la baignade notamment la piscine également Quelles sont justement toutes ces nouveautés qui sont mises en place ici cette année ?
Alors cette année, il y a beaucoup de choses qui changent. On a déjà une buvette qui a changé d'exploitant. On a également le restaurant du lac qui a changé d'exploitant également, qui va ouvrir au 1er juillet. La buvette, elle est ouverte chaque mercredi et chaque week-end du mois de juin et tous les jours à partir du 1er juillet. La baignade est surveillée à partir de ce week-end de midi à 20h, samedi et dimanche, tous les week-ends du mois de juin et tous les jours à partir du 1er juillet. Au niveau des aménagements, donc à l'intérieur du poste de secours, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. À l'extérieur, ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'il y a un poste de surveillance qui est en train de se faire construire du côté de la buvette, une sorte de plateforme en hauteur. Et il y aura également une terrasse devant le poste de secours. Tout ça pour que les conditions de surveillance soient optimales et soient maintenues le plus longtemps possible. Dernier aménagement également, la forme du grand bain qui a été modifiée pour que ça soit beaucoup plus cohérent. C'est-à-dire que soit on est dans le petit bain et on a le droit d'y être et on a pied, ou soit on va dans le grand bain et on n'a pas pied, et si on ne sait pas nager, on ne peut pas y aller. Mais il n'y a plus de zones qui nous mettent en baignade dans le grand bain alors qu'on a pied. Voilà, c'est un peu technique, mais moi, je suis beaucoup plus satisfait en fait, de la configuration de la zone du grand bain, en tout cas. Voilà.
Oui, ça va être ça pour, on va dire, l'usager, pour ceux qui viennent se détendre ici, véritablement de visible, c'est ce grand bain qui a changé.
Oui, tout à fait. Et puis, on va également proposer des couloirs de nage qu'on est en train de préparer, qui seront temporaires, surtout pour les gens qui viennent nager le midi. Pour information, ces couloirs de nage, on va en construire deux. Ces couloirs de nage feront 75 mètres de long et sur à peu près 5 mètres de large. Voilà, donc c'est comme à la piscine, sauf que ça sera trois fois plus long en longueur. Voilà.
Donc, les quelques nouveautés. Et puis, sinon, nous rappeler les consignes pour ceux qui viennent ici se détendre à la baignade du lac de Chalette.
Eh bien, on constate qu'il fait déjà très chaud très tôt hein, sur ce mois de juin. Les chaleurs sont fortes et brutales. C'est rapidement arrivé. Donc, les consignes de base, se protéger bien la peau. Pour les enfants, l'idéal, mieux que la crème, c'est mettre des vêtements, mettre des t-shirts, même s'ils vont dans l'eau. Toujours bien s'hydrater, beaucoup boire. Dès qu'on sent qu'on est un peu trop chaud, essayer de rester à l'ombre. Et puis, pas prendre de risques au niveau de la nage. C'est une année vraiment particulière cette année. Cette année, plus l'année dernière, on a eu beaucoup d'enfants qui ne sont pas allés à la natation scolaire du fait de l'arrêt du fonctionnement des piscines et de la natation scolaire. Donc vraiment plus cette année que n'importe quelle année. Ce qui est important, c'est que les enfants ne prennent pas de risques, qu'ils n'aillent pas dans la zone du grand bain, s'ils se sentent pas bien à l'aise. Voilà.
Et il faut rappeler que les enfants, ils sont sous la surveillance des familles.
Exactement. C'est important que les maîtres nageurs soient là ou qu'ils ne soient pas là. La responsabilité des parents est permanente et constante. Donc, ce n'est pas parce que la baignade est surveillée que les parents peuvent se dire « on reste à bronzer sur notre serviette, c'est les maîtres nageurs qui surveillent les enfants ». Nous, notre rôle, c'est de faire de la prévention et d'assister en cas de difficulté. Mais en aucun cas, à aucun moment, la surveillance, la responsabilité des parents est désengagée. Elle est vraiment permanente et constante. Les enfants, il faut les surveiller comme le lait sur le feu. Et vraiment encore plus cette année que n'importe quelle année.
Et combien de surveillants vont être là pour cet été ?
Alors cette année, pareil, au niveau de l'organisation de la surveillance, ça sera trois sauveteurs qui seront là en permanence de 11h30 le matin pour une ouverture de poste à midi jusqu'à 20h descente du drapeau, fermeture du poste de secours et départ des sauveteurs à 20h15 tous les soirs. Du lundi au dimanche, du 1er juillet jusqu'au dimanche 29 août.
Et là pour ces mois de juin ? Mêmes horaires ?
Mois de juin, mêmes horaires, même dispositif, trois sauveteurs, tous les week-ends du mois de juin, à partir de ce week-end. Et si jamais on était comme en 2019 sur un épisode caniculaire qui se déclencherait avant le 1er juillet, nous, on aurait toujours la possibilité de mettre des surveillants tous les jours, dès le premier jour de canicule, en fait. Donc, on attend de voir comment la météo va évoluer d'ici le 1er juillet.
C'est la baignade, mais la piscine, elle rouvre également.
Alors, la piscine est réouverte depuis hier, depuis le 9 juin, aux adultes. Donc, sur des horaires qui sont affichés sur l'entrée de la piscine et également sur le site de la ville. Les scolaires, en fait, ont déjà repris depuis quelques semaines. Les activités enfants aussi avaient repris depuis quelques semaines. Là, la dernière étape pour nous, c'était d'accueillir les adultes à nouveau. Et c'est possible depuis hier, depuis le 9 juin.
Voilà. Pour revenir à cette baignade, donc, il y a la plage, il y a les jeux. On a vraiment de quoi passer un bon moment ici.
Oui, tout à fait. Les services techniques, comme d'habitude, passent beaucoup, beaucoup de temps à entretenir, à tondre les pelouses, à nettoyer le matin, ramasser les poubelles, faire vraiment pour que cet endroit soit vraiment un havre de paix et puis quelque chose d'extrêmement joli et de propre. Voilà. Donc moi je suis très très fier de leur action. Je sais combien ils travaillent, je sais qu'ils travaillent vraiment beaucoup. Ils sont très très investis et quand on voit le résultat, on ne peut qu'être admiratif et les remercier de leur travail en tout cas.
Ouais, on n'a plus qu'à venir piquer une petite tête alors.
Oui, mais en mouillant un peu sa nuque s'il fait très chaud, pas se précipiter et puis vraiment, si on a des enfants, vraiment surveiller ses enfants encore plus cette année que n'importe quelle autre année, voilà.
Dernier petit point avant d'aller piquer une tête, c'est la qualité de l'eau.
Qualité de l'eau, c'est surveillé tous les 15 jours à partir de la fin du mois de mai. Donc on a eu déjà notre premier contrôle au mois de mai cette année. Tout est parfait. On a été renouvelé dans le label Pavillon Bleu. Le label Pavillon Bleu, la condition, c'est que sur les 5 dernières années, la qualité de l'eau soit de qualité excellente. Donc ça, c'est encore vrai, ça a été vrai l'année dernière, ce qui nous permet d'être labellisé à nouveau cette année en 2021 Pavillon Bleu. Et puis les contrôles sanitaires ont lieu tous les 15 jours, tout au long de l'été, jusqu'à la fin de l'été. Les résultats sont affichés sur les panneaux d'affichage au poste de secours, donc si les gens ont la moindre question ou la moindre doute par rapport à ça, ils peuvent venir consulter ça, c'est obligatoirement affiché.
Eh bien, merci.
De rien, avec plaisir. Bonne saison à tous.
Merci Patrice, merci Michel. Nous sommes entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur ses deux ailes. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Trouvez-nous. Allez, à tout de suite.
Ce soir, j'irai danser le monde. Royal Casino, sous des lambris rococo. La nuit viendra me faire oublier. Tu me feras.
C2L.
Si vous êtes abonné à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube, la balade que nous allons faire à présent, bah vous l'avez peut-être déjà vue en vidéo car nous l'avons diffusée assez tôt dans la semaine. Car le lieu qu'on va vous faire découvrir maintenant, ça ferme demain. Donc c'est maintenant. C'est votre dernière chance cet après-midi d'aller voir, de visiter cette expo. Ça se passe à Adon, c'est la Grange de Mussy. Et nous avons été accueillis là-bas par Agnès et Jean-Michel.
De passer un dimanche matin absolument magique puisqu'on est accueilli à la Grange de Mussy. Et est-ce qu'on s'attendait seulement à découvrir l'univers d'Agnès Frattini? Merci de nous accueillir.
Merci à vous.
C'est vraiment une grande découverte. Alors vous êtes déjà nombreux à connaître la Grange d'Agnès, puisque ça fait, c'est ouvert depuis 2012 en fait. Vous me disiez, Agnès, qu'il y a déjà quand même heureusement des habitudes de fréquentation de votre lieu qui est ouvert toujours à la même période, fin mai, début juin. C'est voilà. Ça, tous les ans,
tous les
depuis
ans,
2012.
Pendant deux semaines, et c'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'habitués. Et cette année, quand même, énormément de personnes nouvelles. Donc, à force d'ouvrir tous les ans, je pense qu'il y a le bouche à oreille aussi. Essayer aussi de se faire connaître. Et c'est pour ça que je vous remercie d'être là, pour essayer de montrer à d'autres personnes aussi qu'on fait ça tous les ans, avec des artistes différents tous les ans.
Alors Agnès, encore une fois, je pensais m'adresser à une galeriste ou à une amoureuse des artistes. Vous êtes vous-même artiste.
Oui.
Voilà.
Ça n'empêche pas d'être amoureuse.
Tout
des
à
artistes.
Fait, mais c'est multiple. Je pensais arriver uniquement dans une galerie, dans un lieu d'exposition, et je découvre un univers.
Oui.
Et là encore, donc vous êtes tapissière, vous êtes peintre,
oui.
Vous mêlez les deux, c'est ce qu'on va voir.
Voilà. Cette année surtout, j'ai essayé de mêler les deux. Jusqu'à présent, je faisais les deux professions parallèlement. Et là, j'ai essayé vraiment de faire quelque chose qui relie les deux professions, la peinture et la tapisserie.
Ah donc, c'est passionnant parce que c'est de maintenant. Ça date de cette année.
Oui, oui.
Avec
là,
le confinement, etc., vous avez travaillé...
Oui, ça fait longtemps que j'y pense, justement, d'essayer de relier les deux choses. Et voilà, cette expo-là, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose qui commence.
Mais vous avez raison, c'est magnifique ce que je vois. Il y a des chaises incroyables. Monsieur Weber, vous nous montrerez les chaises. Et puis donc, il y a une manche à air dehors et puis il y a ces panneaux. C'est superbe. Donc vous êtes l'une des artistes exposées,
oui,
dans cette grange somptueuse. Vous nous dites que c'est une grange qui doit dater de la Révolution,
oui, au moins,
ou avant la Révolution.
La Révolution, oui. Et c'est un bâtiment qui ne servait plus à l'exploitation de mon mari. Et comme je fais de la peinture, une année on a décidé d'ouvrir la grange pour faire une exposition. Et depuis 2012, donc tous les ans, on organise fin mai début juin cet événement et avec des artistes différents.
D'accord. Cette année, il n'y a que des femmes.
Voilà, que des femmes.
Bon alors, excusez-moi, ça me plaît. Excusez-moi, Monsieur Weber, une petite touche féministe.
Et local.
Et local, Monsieur Weber, là, ça vous plaît.
C'est pas forcément voulu, mais cette année, voilà, il y a eu des coups de cœur sur des artistes vraiment. Peut-être le confinement qui fait que. On a essayé de chercher des choses plus proches de nous.
Alors donnez-nous, après Pascal Weber va se balader avec sa caméra sur les différentes œuvres, donnez-nous le nom de ces artistes qui sont exposés avec vous.
Donc il y a Isabelle Franck, il y a de Châtillon-Coligny, qui a aussi une galerie au grenier à sel de Châtillon-Coligny, un atelier-galerie.
Alors il faudra qu'on aille voir.
Voilà, il y a une nouvelle exposition d'un sculpteur là, depuis avant-hier. Il y a Gabriela Gonzalez de Châtillon-sur-Loire, qui travaille beaucoup les paysages de Loire. Il y a Jim qui est de Briard, qui travaille le corps humain, le dessin et, le, et les paysages de Loire également.
Et les paysages de Loire.
D'une façon très différente de Gabriella. On a Elisabetta Riganti qui travaille aussi beaucoup le, l'humain, je dirais, en le décomposant, en refaisant des graphismes, dessins et graphismes. Et Karina Schneider qui, elle, alors nous fait toute une exposition de céramique de toutes les couleurs, magnifique. Et donc moi qui ai présenté les tissus cette année.
Alors en parcourant justement cette exposition, je vous disais, mon sentiment, c'est que vous avez réussi à trouver des artistes, à mettre en, en dialogue en fait des artistes très différents, qui sont vraiment, on voit bien quels sont les travails. Personne ne ressemble à personne et en même temps il y a des passerelles de couleurs ou des passerelles de sensibilité, des passerelles, un vrai dialogue entre tous ces artistes.
Oui, c'est l'idée de cet accrochage dans la grange. Au départ, je choisis des personnes que je sais très différentes. Après, quand elles amènent leurs œuvres, je ne sais pas trop ce qu'elles vont amener, parce que moi, j'ai vu un travail, elles peuvent en importer un autre. Donc, une fois qu'on a tout, tout réceptionné les œuvres, j'essaye de faire justement des accrochages pour qu'il y ait, oui, effectivement, des passerelles de l'une à l'autre. Et pas mettre une dans un coin et l'autre dans l'autre. Il y a vraiment un dialogue entre elles, et un peu comme chez soi, comme si on accrochait des tableaux les uns à côté des autres avec un objet voilà, au milieu.
Mais alors, ce que vous dites, c'est qu'au début, quand vous réceptionnez les œuvres, vous mettez tout par terre, vous dites « Oh là là, mais on ne peut pas les mettre les uns à côté des autres, c'est pas possible !»
C'est un cauchemar, et tous les ans, je me dis « Cette année, on ne va pas pouvoir mélanger. » Je leur demande aux artistes si elles veulent bien être mélangées, parce que c'est quand même particulier.
Oui,
demande.
Oui.
Alors des fois elles sont un peu réticentes, mais bon, elles laissent faire. Et finalement, on finit toujours par trouver des connexions de l'une à l'autre, et je trouve ça vraiment intéressant.
Tout à fait. Alors, il y a. Vous êtes culottée. Tout à l'heure, je vous disais, Agnès, vous êtes culottée. Alors, vous êtes culottée parce que là, j'ai derrière moi un mur prune magnifique. Et quel est le galeriste qui mettrait un mur prune? Et ça fonctionne extrêmement bien. C'est fabuleux. Avec la toile, entre autres, de, rappelez-moi le nom de l'artiste.
Isabelle Franck.
Et puis, vous aussi, vos mobiles qui sont un petit peu plus loin. Et puis les céramiques de...
Karina Schneider.
Et puis aussi, on a des œuvres qui sont posées à même le sol. Et c'est génial. Et là encore, à chaque fois, vous dites, j'ai toujours peur de voir comment va réagir l'artiste.
Ben oui. Oui, parce que quand on fait des accrochages comme ça, on essaye, oui, d'avoir des espaces différents, avec des rythmes de couleurs, de grosseur de toile, de... Et à certains moments, je trouve que c'est bien, surtout dans la grange, d'utiliser tout l'espace, que ce soit en hauteur, au sol. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu... Ça fait peur de voir la réaction des artistes. Parce que...
Non, mais vous êtes une grande accrocheuse. Vous avez vraiment le sens de l'accrochage, c'est vraiment très très beau. Vous travaillez les matières, alors évidemment, il faut que vous sachiez qu'il y a... Ici, c'est les matières sont sublimées, les matériaux, en fait, je m'exprime mal, les matériaux de la grange sont sublimés par les œuvres d'art et les œuvres d'art sont sublimées par les matériaux. Ici, là, Agnès, tout à l'heure, on parle, je regardais derrière vous, on a quand même un fragment de torchis. Des vieux bois, c'était très beau derrière vous. Là, un petit peu plus loin, il y a les œuvres de Jim qui sont posées sur des toiles de jute, sur un panneau de toiles de jute absolument magnifique. Ici, on a des espèces des vieux billots. En même temps, là, on a des socles beaucoup plus attendus dans une exposition. On découvre des artistes. On découvre un lieu, on découvre aussi ce qui est intéressant, c'est que ce soit une artiste qui devienne galeriste et qui nous montre ses coups de cœur. Est-ce que c'est toujours le cas? Moi, depuis tout à l'heure, je me dis, y a-t-il beaucoup d'artistes qui s'ouvrent au travail des autres ? Vous voyez ? Voilà, peut-être qu'on laisse sans réponse. Mais vous, voilà, vous êtes une artiste qui s'ouvre au travail des autres et qui sans doute s'en nourrit aussi.
Oui, l'idée c'est de se nourrir des autres, effectivement, mais j'aime bien les artistes, les artisans d'art, et j'ai envie de les défendre, quoi. C'est l'idée aussi de la grange, c'est de montrer leur travail, puis d'essayer de bien les représenter, quoi.
Alors, vous n'êtes pas toute seule quand même. Alors voilà. Alors, c'était important que tu sois là, Jean-Michel. Parce qu'on. Ouais. Parce que d'abord, un univers semblable. Tout à l'heure, Pascal, il a fait plein de photos. Il a fait même marcher Zing Zing Zing, là, son petit dernier petit joujou, là, pour qu'on voit tout cet univers. Vous l'avez créé à deux, vous l'avez rêvé à deux, vous l'avez pensé à deux. Vous avez fait d'une exploitation agricole un lieu de création. La vôtre, avant tout.
Oui. Oui, c'est sûr que. Bon, moi, je suis ici depuis très longtemps. Bon, je suis passionné par la pierre, le bois. Et bon, quand j'ai rencontré Agnès, ben, ça a été décuplé, quoi. Et c'est vrai qu'on échange en permanence, on a toujours des idées en tête et on est toujours sur des compromis. Chacun, un de nous deux a un projet, il en parle à l'autre, et puis ça aboutit toujours sur un consensus. Chacun apporte son.
Mais là, ça faisait longtemps que tu voulais en faire quelque chose de cette grange.
Cette grange-là, oui, depuis très longtemps, je voulais en faire quelque chose parce que bon, ça ne servait plus pour l'exploitation agricole. Alors il y avait de la paille, il y avait du bois, là il y avait de la paille. Puis la première. Et puis j'ai poussé un petit peu Agnès, j'ai dit il faudrait que tu exposes quand même. Je dis à la grange, Donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis on a fini, on a poussé, on a enlevé après le bois, il y avait encore de la paille.
Voilà. Sur l'autre.
Ça a progressé sur 3-4 ans. Quoi.
Alors maintenant, le nouveau chantier, ça va être l'atelier d'Agnès, parce qu'il n'est pas fini.
Voilà, mais je pense que ce ne sera jamais fini. Hein.
Alors, l'atelier d'Agnès Fratini, il sera en face là-bas. Et ça sera ouvert toute l'année.
Voilà,
c'est ça. Donc là, l'expo, il va falloir se dépêcher, d'ailleurs, parce qu'elle se termine la semaine prochaine.
Oui.
Donc à mon avis, il va y avoir un monde fou le week-end prochain grâce à notre émission.
Samedi prochain et dimanche.
Le concert, il est complet depuis longtemps, donc on aurait voulu vous donner envie d'y aller, mais ce n'est pas la peine. Hein. Alors, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Donc sinon, toute l'année, à partir de l'année prochaine.
Oui.
C'est bon, hein, à partir de l'année prochaine, Jean-Michel.
Oui, d'accord.
On pourra voir l'atelier, il sera ouvert à l'automne, carrément à l'automne, là.
Oui.
Jean-Michel, c'est à l'automne.
Non, on ne sait pas. On encore.
Une petite question, on peut venir tous les jours ou c'est seulement le week-end ?
Pour l'exposition ?
Pour l'exposition.
Tous les jours, les après-midi.
Voilà, tous les jours, les après-midi, toute la semaine prochaine, jusqu'à dimanche,
Oui, samedi, jusqu'à dimanche.
Est-ce que les artistes viennent de temps en temps? Est-ce qu'ils seront là le week-end prochain? Est-ce qu'ils passent?
Le dimanche pour le concert.
Ils seront là le dimanche pour le dévernissage, comme on dit maintenant. Je pense qu'on a fait le tour, Monsieur Weber.
Le nom,
La Grange de Mussy.
Voilà.
Adon, Agnès et Jean-Michel, allez vous régaler les yeux, et puis tout autour, vous avez montré tous les alentours, c'est magnifique. Merci de votre accueil.
Merci à vous. Merci.
Le Musicaire organise sa 18e édition de son festival le 2 et 3 juillet 2021 au Vélodrome de Montargis. Ouverture des portes 19h, au programme cette année le vendredi, Glim, Radio Byzance, Kokomo et l'un des DJ les plus emblématiques du hip-hop, Cut Killer. Le samedi, Ensemble National de Reggae, Swan of the Groove, Madame Robert et pour finir, Manu Digital et Dimas J. Le prix d'entrée par soirée de 10€, 15€ le pass de 2 jours, gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d'informations sur le www.musicaire.fr. La Grange de Mussy vous ouvrira ses portes du vendredi 28 mai au dimanche 13 juin tous les jours de 13h à 19h. Durant ces deux semaines, elle s'anime et accueille des artistes peintres, photographes, sculpteurs et bien d'autres. Venez découvrir, partager, rencontrer 6 femmes qui exposent dans la région leur travail sous différents horizons. Et pour clôturer cet événement dans ce site chargé d'histoire, dimanche 13 juin à 16h, ne manquez pas le concert Chamber Sinfonietta, une dizaine d'instrumentistes qui vous emmènent dans un voyage à travers la musique baroque, l'opéra et le romantisme nordique. Renseignements et réservations sur le www.agnesfratini.fr/exposition-spectacle ou au 06 84 73 48 91. Entrée libre, Mussy, route de Fin, 45 230, Adon.
De la pop, du rock et des nouveautés sur les ondes de C2L.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L. Merci de nous écouter. Dernière partie de cette émission avec une des plus vieilles associations françaises, la Fédération de la Libre Pensée. Figurez-vous qu'il n'y avait pas de fédération dans le Loiret. Et c'est désormais chose faite, puisque Monica a créé la Libre Pensée du Loiret à Chalette. Et elle est venue raconter toute cette histoire passionnante sur notre canapé au micro de Sandrine Manteau.
Bon, Monica Journet, bonjour. Alors nous sommes hilar, mais est-ce que le sujet d'aujourd'hui mérite d'être hilar à ce point, puisque nous allons parler ensemble de la libre pensée?
Dans le fond, oui, parce qu'un libre penseur et une libre penseuse se doivent quand même d'être irrévérencieux.
Ah, c'est formidable. Alors, Monica, tu as créé il y a quelques mois, il y a très peu de mois, même en mars simplement, la Fédération de la Libre Pensée du Loiret.
Alors la Fédération de la Libre Pensée du Loiret, disons, j'ai déposé les statuts le 22 mars. Au journal officiel, c'était en avril, donc c'est vraiment tout récent. Donc c'est une association qui est fédérée à la Fédération Nationale de la Libre Pensée, qui est une très très vieille institution française, puisqu'elle a été fondée en 1847, et que non seulement c'est la plus vieille institution, la plus vieille association de défense de la laïcité, de la libre pensée en France, mais elle est en même temps l'artisane de la laïcité en France, et c'est ça qui est intéressant.
Bon, dis-moi, je suis sûre qu'on est nombreux là tout de suite à se dire, mais qu'est-ce que la libre pensée ?
Alors, la libre
vaste oui, sujet.
Vaste sujet. Je pense qu'il y a eu des libres penseurs et des libres penseuses depuis que on essaye d'imposer aux personnes des dogmes, qu'on essaye de les endoctriner et de les obliger à ne pas avoir une pensée libre, parce que la pensée devrait être libre par définition. Mais il y a toujours des dogmatismes, des prosélytismes, et que les personnes sont en danger parce qu'ils ont une pensée propre. Donc la libre pensée, dans le fond, c'est déjà, pour commencer, la liberté de penser ce qu'on veut sans pression aucune, sans pression sociale, sans pression d'aucune autorité et d'aucun pouvoir. Donc ça déjà, c'est une pensée libre, mais pas seulement. La libre pensée, elle est quand même liée au fait de penser en se fondant sur la raison, ce qui est rationnel, la raison, la science. Donc la libre pensée, elle va quand même lutter contre les religions, contre ce qui peut être une pensée qui n'est pas fondée sur le libre examen. Voilà. On va discuter de quelque chose, je pense quelque chose, je vais soumettre ça à mon examen rationnel, au libre examen aussi des autres. avant de... Voilà, on va vérifier, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de dogme, et on vérifie ce qu'on pense.
Tout dogmatisme religieux, tout dogmatisme politique également.
Également, oui, également, parce que... voilà.
Ou idéologique, donc.
Dans l'histoire, on va forcément lier la libre pensée à la persécution religieuse, puisque depuis que, enfin, je pense que la première personne qui s'est vraiment revendiquée en tant que libre penseur et en tant qu'athée, c'était Diagoras de Mélos au 5e siècle, j'allais dire avant Jean-Claude, voilà. Et donc avant notre ère, ce qui est quand même formidable qu'on dise encore notre ère, alors que c'est l'ère chrétienne. Hein, et que moi personnellement, je ne suis pas chrétienne, mais je dois quand même dire, voilà, on est envahi quand même par la pensée religieuse quand on est libre penseur. Donc Diagoras de Mélos était le premier à dire, voilà, je suis athée, et non seulement je suis athée, mais je vais vous expliquer les mystères d'Eleusis, là, c'est n'importe quoi, c'est de l'enfumage. Et moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment est-ce que les gens sont abusés. Il a été condamné
martyr.
À mort. Condamné à mort, voilà. En fait, alors lui, ils n'ont pas réussi à... Voilà, il est parti, il a fui Athènes avant d'être exécuté, mais il y a eu des persécutés, des héros de la libre pensée. J'aime pas beaucoup le mot martyr, qui est aussi un petit peu chrétien.
Oui, voilà. J'ai pensé que tu allais bien, d'ailleurs, me tacler au passage.
Voilà. Mais il y a des héros de la libre pensée depuis la Grèce antique, depuis très longtemps. Mais ça peut aussi, comme tu disais, être finalement politique, parce que la libre pensée, c'est très bien. Moi, je vais penser ce que je veux chez moi, mais voilà, une vraie libre pensée, c'est une libre pensée qui peut être exprimée, qui peut être publiée, qui peut être manifestée dans l'espace public. Bah, on en arrive, par exemple, au fait que la libre pensée, la Fédération nationale de la libre pensée, lutte contre les décrets du 2 décembre 2020 de Macron, qui veut tous nous ficher selon nos opinions. Donc on arrive très vite au fait que c'est pas seulement les églises qui essayent que nous ne puissions pas penser librement.
Alors toi, raconte-nous en quelques mots ton parcours. Comment est-ce que tu t'es sentie naître libre penseuse à un moment donné, Monica oui. Jornet.
Voilà. Alors,
y a-t-il une date dans ton parcours?
Si je devais remonter à une date, je remonterais environ à l'âge de mes 7 ans, parce que moi je suis fille d'exilés politiques, bon, on ne va pas dire les partis et tout ça, mm-hmm. parce que je tiens quand même à dire que la libre pensée est complètement indépendante de tout parti politique, donc je vais quand même veiller. Mais enfin, mes parents étaient exilés, et dans mon enfance, bon, ma langue maternelle est l'espagnol, et dans mon enfance, j'ai vu passer à la maison beaucoup de personnes qui étaient passées par les camps de Franco, qui pour certains se sont ensuite aussi retrouvés dans les camps nazis et qui étaient survivants à tous ces camps. Et dès mon enfance, pour moi, d'abord l'antifascisme et la défense de la liberté en soi, parce que je me souviens déjà dans mon enfance d'avoir été contre le système carcéral, ça me travaillait beaucoup. Enfin, l'idée que qu'on ne puisse pas être inquiété pour ses opinions m'a toujours semblé quelque chose de vraiment fondamental. D'ailleurs, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Si j'ai bonne mémoire, c'est l'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Voilà. Et donc, pour moi, la liberté, c'est vraiment la base, même y compris de mon engagement politique. Et j'ai eu un engagement politique, ben, comme vous tous, j'imagine, pendant toute ma vie. Mais ce qui m'a intéressée pour m'approcher de la libre pensée, c'est que j'ai envie de ce mouvement qui est très rassembleur. Parce qu'on va être rassemblés sur le fait, voilà, on n'a pas forcément tous exactement la même option politique. Et ben, je rappelle par exemple que la loi de séparation des églises et de l'État a été voté par la majorité républicaine à l'Assemblée, sans aucun amendement par le Sénat, c'est-à-dire que c'était complètement consensuel. Et quand on dit majorité républicaine, ça veut dire qu'il y a y compris de la droite modérée qui a voté cette séparation.
En 1905
En 1905, tout le... Et je trouve que c'est bien de pouvoir... mettons, sortir dans la rue, il va y avoir, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il va y avoir là des manifestations pour nos libertés à nous qui sont menacées en ce moment, nos libertés de manifester, de se réunir, de nous exprimer par le gouvernement actuel. C'est pas nécessaire qu'on soit tous de la même couleur politique pour sortir, demander de vivre librement. Et je serais contente qu'il y ait beaucoup d'autres opinions politiques que la mienne, y compris. Voilà. Donc, c'est ce côté rassembleur qui me plaît.
Alors, tu veux rassembler les gens à travers cette association qui s'appelle très exactement les Compagnons d'Étienne Dolley. Un magnifique personnage historique. Raconte-nous.
Oui. Alors, en tant que fédération départementale, nous sommes complètement autonomes dans nos choix, dans nos écrits, dans nos opinions, au sein de la fédération nationale. Alors, il y a pas mal de fédérations départementales qui se donnent un nom. Donc officiellement, au journal officiel, nous sommes la Fédération de la libre-pensée du Loiret, donc à vocation départementale. Donc l'idée était de chercher un héros de la libre-pensée loiretain. Alors Étienne Dolley est revendiqué comme loiretain. Bon, après on peut discuter. On peut discuter. Moi, je veux dire, est-ce qu'il suffit d'être né à Orléans pour être loiretain? Mais bon, disons que classiquement, on considère qu'Étienne Dolley est loiretain, même s'il y a aussi une association Étienne Dolley à Lyon où il était imprimeur qui est.
Rappelle-nous voilà. L'époque.
Alors,
etc.
Étienne Dolley, alors moi je ne suis pas très bonne pour les dates, je crois qu'il est né en 1514.
C'est le 16e en tout cas.
Voilà, en tout cas, je suis certaine qu'il a été brûlé en 1546 parce que ça c'est une date importante.
À Paris, place Maubert.
Voilà, donc en fait lui. Et il a d'abord fait, il a quitté Orléans, il a fait des études à Toulouse. À Toulouse, déjà en tant qu'étudiant, je sais qu'il a eu des prix de la part de ses pairs, des autres étudiants, pour ses discours qui étaient déjà libre-penseurs contre les autorités à Toulouse, les autorités ecclésiastiques, les procès inquisitoriaux, hein, parce qu'on est au XVIe siècle à Toulouse. Il a déjà été inquiété et il a dû... quitter Toulouse.
Et il devient imprimeur.
Voilà, il devient imprimeur à Lyon et il a eu une licence d'imprimeur de la part de François Ier, donc il était autorisé.
Il y en a certains qui disent que c'est son fils caché.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. Parce que moi, j'aime bien les potins.
Ah bon, moi, j'étais pas au courant des potins. On aurait dû mieux se renseigner avant de donner le nom. Ah, d'accord.
En tout cas, un potin beaucoup plus passionnant, c'est qu'il a travaillé avec Rabelais, un autre grand libre-penseur.
Voilà. Parce qu'en fait, oui, il a fait... parce qu'il a été condamné plusieurs fois et il a fait de la prison à Paris, à la Conciergerie. Il a réussi à obtenir la grâce royale et au cours d'un banquet, il a connu Rabelais et d'autres qu'il a publié lui en tant qu'imprimeur à Lyon. Mais
c'est terminé en eau de boudin. Quoi.
Et il est clair que l'Église voulait sa peau parce qu'il publiait des textes trop libres et surtout il a publié plusieurs livres sans passer par la censure. Donc ça passait pas du tout et ils ont réussi à le coincer et alors ça vaut le coup de le raconter parce qu'Étienne Dolley était un très bon latiniste et un très bon traducteur et d'ailleurs il a écrit un manuel à l'usage des traducteurs. Moi ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup traduit de l'espagnol.
Parce qu'on rappelle quand même que tu as une chaire professeur d'espagnol et que tu as enseigné à Henri IV carrière.
J'étais professeur de chaire supérieure en espagnol, donc au lycée Henri IV.
Mais j'aime bien le paradoxe entre la libre penseuse et le fait d'avoir enseigné à Henri IV. J'avoue que j'essaie de me projeter.
Je réponds tout de suite après.
Ah ben, d'accord.
Alors là, pour finir sur Étienne Dolley, il a traduit un discours attribué à Socrate, où Socrate disait, et de toute façon, quand vous serez mort, point de suspension, parce que la phrase est un peu longue, après, le texte latin disait, il n'y aura plus rien. Et lui, au lieu de dire « il n'y a plus rien », il a écrit « il n'y aura plus rien du tout ».
Oh là là.
Et il a été condamné à mort pour le « du tout ».
Oh là là.
Voilà, c'est quand même terrible. Alors ils se sont servis de ça pour dire qu'il niait l'immortalité de l'âme. Mmh. Il a été condamné à être brûlé vif. Mmh. Et si jamais à être soumis à la question extraordinaire, la question extraordinaire c'était lui broyer les genoux, puis le traîner vers le bûcher, et que si jamais il blasphémait en cours de route, on lui arracherait la langue.
On lui a cloué la langue.
Oui, voilà. Et il a dit, et on va le soumettre à la question extraordinaire, ça enseignera ses compagnons. Texto. Texto. Et c'est pour ça que nous, on s'est donné le nom les compagnons et compagnonnes, hein, écriture
inclusive. Ah oui, c'est ça, hein, tu dis. Hein.
J'y tiens, l'écriture oui, d'accord. Inclusive. Les compagnons, compagnonnes d'Étienne Dolay.
Tu aurais dû dire alors les compagnonnes et compagnons.
Voilà, on aurait plus exact. Aussi. Parce que effectivement, il nous a enseigné.
Oui, c'est
et
ça.
On est libre penseur et libre penseuse, nous aussi.
Et alors, voilà. S'en est suivi quand même la persécution de nombreux imprimeurs, en l'occurrence.
Voilà, alors il a été brûlé à Paris parce que c'est Place Maubert qu'on brûlait les imprimeurs. Il a été tout de suite revendiqué par la libre pensée, parce que bon, la libre pensée organisée, c'est 1847, mais il y a eu de nombreuses associations. Les libres penseurs ont, dans l'histoire, essayé de se rassembler, de créer des associations pour se défendre.
Et ont été des associations qui ont été dissoutes, par exemple, on le disait tout à l'heure, par Napoléon III quand il arrive au pouvoir.
Voilà. Étienne Dolay, il a été tout de suite revendiqué. D'ailleurs, la place Maubert était un rendez-vous des Dreyfusards, par exemple.
D'accord.
Ils allaient là se réunir, voilà.
Bon, quelques autres libres penseurs qui te viennent à la pensée.
Alors moi, des libres penseurs, qui me...
Toi, tu es allé à travers l'Europe, tu m'as parlé d'un Italien inconnu.
Je suis très internationale et internationaliste, du fait que ma langue maternelle est l'espagnol. Après, je suis aussi devenue bilingue italien, donc j'ai un très grand attachement à Giordano Bruno. Qui
lui aussi a été brûlé vif.
Voilà, il était brûlé vif à Rome, à Campo dei Fiori, où actuellement il y a une... Bon, j'y suis allée pour lui rendre hommage.
Et c'était pour quelle raison ?
Alors lui, ça va beaucoup plus loin que de proclamer, enfin, il n'a pas simplement proclamé un athéisme, c'est que c'est le premier qui a dit, voilà, le monde n'a ni début ni fin. Il y a de multiples mondes, la matière se combine à l'infini. Nous sommes l'un de ces mondes,
mais c'est extraordinaire.
À l'époque, c'est tellement extraordinaire.
On est au 16e, au 17e peut-être.
Il a été brûlé en 17 février 1600.
Voilà, c'est ça.
Et donc, c'est une pensée, c'est la libre pensée se réclame de la raison et de la science. C'est-à-dire, il a réfléchi au monde, il a usé de sa raison. Et bon, il est témoin, parce qu'à l'époque, le savoir, on ne pouvait avoir une éducation que religieuse, même par nécessité économique d'ailleurs, mais évidemment, il n'avait rien à voir avec tout ça. Et donc, il avait une pensée libre et une pensée scientifique qui a ouvert la porte à tout ce qui peut être une réflexion sur la science, sur notre monde.
La libre pensée va bien au-delà, en fait, des engagements politiques.
En fait, Sébastien Faure disait que la libre pensée, c'était l'anarchie appliquée aux religions. Voilà, donc c'est toute personne voulant porter haut ce concept de liberté. Voilà, je pense quand même qu'il ne faut pas réduire ces beaucoup, beaucoup de personnes, des radicaux. Des personnes de gauche, qu'on appelle de gauche. Si on peut rappeler brièvement, 1864, première internationale Marx, internationale anti-autoritaire, c'est 1872, Saint-Imier, c'est cette époque-là.
Beaucoup de libres penseurs qui font partie internationale.
Forcément, il y a des anarchistes. Après, il y aura aussi des trotskistes, et j'espère n'oublier personne. Il y avait des radicaux, il y avait des socialistes, sachant qu'à l'époque, Jean Jaurès a été un libre penseur important, sachant qu'à l'époque, quand on dit socialiste, c'est pas le socialiste. Ils étaient marxistes. Hein. Donc, mais je ne pense pas que quand on est finalement dans ce camp-là, quelque part, il faille dire voilà, c'est chez nous.
Non. Ah non, loin de là.
Non, la libre pensée, c'est pour tout le monde. Parce que autrement, qu'est-ce qu'on ferait? On serait contre les dogmes tout en étant dogmatique, ça serait dommage.
D'accord.
Et il y a des républicains de droite modérée.
Clémenceau.
Voilà.
Anatole France.
Qui ont défendu la séparation des églises et de l'État au Parlement. Et heureusement qu'on est dans un pays qui a cette tradition et espérons que qu'il y aura toujours une droite française qui soit républicaine et qui croit en la libre pensée. Parce qu'en ce moment, moi je considère quand même qu'on vit sous un régime là avec ce président et son parti, parce que bon, ce président, il ne faut pas tout réduire à lui non plus, hein, c'est une équipe.
Ça lui ferait très plaisir quand même.
Oh, oui, oui, voilà, je sais que ça lui ferait plaisir,
mais ça.
Voilà. Surtout en plus que là, on va critiquer à fond Napoléon qui a rétabli le concordat et tout. Ça va l'embêter beaucoup.
Mais écoute, depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'histoire, ce qui est passionnant.
Oui,
mais attention, on est en train de réduire la libre pensée à l'histoire.
C'est ça.
Or, qu'est-ce que c'est que d'être libre pensée en 2021, libre penseur en 2021? On en est où?
Voilà, parce que
c'est quoi?
Si la libre pensée, ça avait été seulement un très beau mouvement de l'histoire de France, j'aurais pas forcément fait la démarche. À un moment, j'ai voulu adhérer à la fédération et j'ai fait comme tout le monde, j'allais sur Internet et j'ai dit, tiens, comment je fais pour adhérer? Ah bah tiens, portail des fédérations de la libre pensée, il n'y a pas le Loiret. Donc, j'écris un petit mail là et je dis, bon, j'aimerais bien adhérer, mais ça n'existe pas sur le Loiret. Comment on fait? Et donc, ils se sont mis en contact avec moi et ils m'ont dit, vous pourriez adhérer à une fédération voisine. Je dis, moi j'aimerais bien, ça existe dans le Loiret, je serais y compris prête à me lancer dans l'aventure. Bon, ils m'ont fait confiance. Voilà.
Donc qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que va faire cette fédération?
Dans les combats à mener pour la libre pensée, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Il y a des combats qui sont strictement loiretains et d'autres qui sont davantage nationaux. Et on peut être là sur tous ces combats-là. Alors je vais essayer de trouver des exemples un peu rapidement. Par exemple, dans le Loiret, le dossier numéro 1 pour la libre pensée loiretaine, les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans.
Pauvre, gros dossier quand même, hein. Boum.
Alors,
là, gros dossier.
Là, dans le mensuel de la libre pensée, dans le mensuel de la libre pensée qui s'appelle La Raison, je vais publier un article en juillet-août et deux articles sur les fêtes joanniques en septembre, parce que non seulement il y a quand même beaucoup à dire sur le respect de la laïcité au cours des fêtes joanniques. Mais c'est qu'en plus, la municipalité, les Républicains d'Orléans, avec le maire Serge Grouard, a quand même adopté une charte de la laïcité le 10 décembre 2020, oula, qui prévoit carrément une exception à l'obligation de neutralité des élus dans leurs fonctions au cours des fêtes joanniques et pendant la messe. Il prévoit une exception. Après, il dit pas laquelle, mais bon, il ouvre la porte au fait que des élus avec écharpe tricolore puissent, par exemple, prier le jour de la messe solennelle du 8 mai dans la cathédrale d'Orléans, ou puissent y compris communier, saint de l'écharpe tricolore. Ça, c'est un gros dossier. Donc là, comme il y avait le contexte du Covid, moi j'étais très très attentive à voir ce qui se passait cette année. Alors cette année, ça a été un peu particulier parce que les fêtes joanniques ont été réduites à 2 jours au lieu d'une semaine. Et du coup, la messe n'a pas été, ne faisait pas partie de l'événement, on va dire, civil, mais était convoquée par le diocèse. Donc ils y sont allés en tant qu'élus, sans écharpe tricolore. Et à partir de là, liberté de chacun. Si le maire est croyant, très bien, hein, la libre pensée se battra pour qu'il puisse vivre sa croyance librement, bien sûr. Mais nous, on est là pour veiller à la neutralité de l'espace public qui est la garantie de la laïcité et donc de la libre pensée de tous.
Pour parler de tout ça et de bien d'autres dossiers, on se retrouvera où?
Alors, on se retrouvera...
À la Maison des Associations de Chalette.
À la Maison des Associations de Chalette. Alors, il faut dire que l'association est domiciliée à la Maison des Associations de Chalette-sur-Loing. Donc, je profite pour remercier la municipalité, hein, quand même, qui nous accueille, puisque... Quelque part, c'est, même si ça n'engage en rien ni la libre-pensée ni la municipalité, c'est quand même quelque part le signe que la laïcité est la bienvenue ici. Donc on va essayer, alors ce n'est pas simple en situation de pandémie, parce que finalement l'association vient d'être créée. Il faut que les personnes puissent nous contacter, voilà, pour adhérer, pour participer. Et y compris pour nous proposer des dossiers.
Hein, mais des gros dossiers.
Des dossiers, oui, parce que les dossiers, ça peut être à n'importe quel moment. Hein. Ça peut être parce que quelqu'un, n'a pas pu exercer librement
Vous donnerez
sa religion,
tout...
ou parce qu'il n'a pas pu... Enfin, je veux dire, un gosse qui est à la cantine n'a pas son repas sans porc peut s'adresser à nous.
Bah, très bien, alors... Monica Jornet, on donne le numéro de téléphone ou pas? Non, tout ça par mail et tout.
Alors,
ça.
Alors, il y a un numéro, okay, de téléphone sur le site de la...
Et ben voilà, tu mets le numéro de téléphone aussi. Je te remercie beaucoup.
Merci à toi de m'avoir accueilli.
Voilà, merci.
Monica Jornet au micro de Sandrine Manteau qui nous présentait la Fédération de la Libre Pensée qui est donc désormais implantée à Chalette, à la Maison des Associations. Je vous rappelle dès cet après-midi, il y a le Tut Élu Aventure à la médiathèque de Montargis dont nous avons parlé la semaine dernière. Toujours cet après-midi, c'est votre dernière chance de visiter la magnifique expo de peinture, mobile en tissu, poterie, etc. d'Agnès et Jean-Michel à la Grange de Mussy à Adon. Je rappelle aussi que c'est ce week-end que la baignade de Chalette rouvre non pas ses portes, mais sa plage. Nous étions entre Loire et Loing sur ces deux ailes. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouvez toutes les infos sur nos invités ainsi que les vidéos de leurs interviews, les reportages que nous diffusons dans cette émission. Tout ça, c'est sur notre page Facebook et sur les internets. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On va dire merci à toute l'équipe, Patrice Avzar, Sandrine Manteau, Anita, Émilie, JB, c'était Pascal Weber au micro et à la réalisation. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure sur ces deux ailes. Nous parlerons musique et concerts, surtout avec la nouvelle saison du Chant des Moutons et le festival Musicaire. Allez, bonne semaine à toutes et à tous.
C'est 2L Radio 89.3.